Le grand témoin. Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Lui, c'est Josaphat Ndelo Dipanzou. Il est pharmacien toxicologue, professeur d'université et recteur honoraire de l'université de Kinshasa. Professeur Ndelo, bonjour.
Bonjour, madame.
C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et donc, avec vous, dans notre entretien, nous allons vous proposer, vous présenter, je voulais dire, auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger, hein, grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Alors, on parlera de votre expérience professionnelle. Je dis que vous êtes pharmacien toxicologue.
Oui.
Ça veut dire que vous soignez toutes les personnes qui ont...
Non, il faut d'abord commencer à dire qu'en tant que pharmacien toxicologue, donc, disons, je suis un spécialiste de poison. En fait, c'est ça. Les spécialistes des poisons dans tous les sens. Je peux faire des analyses donc de poisons, par exemple, retrouver du poison dans une boisson, dans un aliment, chez un individu. Et puis bon, je connais aussi les méthodes de traitement des poisons. Et donc je fais aussi de l'enseignement. J'enseigne à la faculté de pharmacie, j'enseigne à la faculté de médecine, ainsi de suite.
Est-ce que c'est seulement sur les poisons que vous faites vos recherches ou que vous soignez, ou encore même pour ceux qui prennent en excès le tabac?
Oui, les poisons, c'est vraiment dans leur ensemble.
Le tabac est dans la catégorie
des poisons. Le tabac est impliqué dans la catégorie des poisons. Les drogues, c'est aussi des poisons. L'alcool, c'est aussi un poison. Donc, j'interviens dans tous ces domaines-là.
Alors, on va y revenir tout à l'heure dans cette émission. Bon, avant d'en parler, professeur, on va faire un gros pas en arrière pour parler de votre enfance. Professeur, dites-nous, vous êtes né où et quand?
Eh bien, je suis né à Kangou, dans le bas-fleuve,
dans
la province du Bas-Congo, dans la forêt du Mayombe, le 23 avril 1951.
Et c'est là que vous avez grandi ou vous avez grandi à Kinshasa?
Non, j'ai grandi là-bas. Disons, mon père était gérant dans des magasins d'une compagnie qui exploitait l'huile de palme. Alors, il s'est déplacé d'un endroit à l'autre, on les suivait partout. Et bon, donc, j'ai grandi au Mayombe et je ne suis venu à Kinshasa que pour l'université en 1970, quand je suis entré à l'université. À ce moment-là, c'était l'université Lovanium, qu'on a connu seulement une seule année de Lovanium, évidemment.
Donc, vous avez grandi dans le Mayombe?
Oui,
comme vous prononcez vous-même, vous avez fait des études humanitaires gréco-latines.
Oui. Non. Humanité, pas gréco-latine, mais latin-philo. Voilà, latin-philo. C'est ça.
Au collège Saint-Charles Luanga Lukula. Et à l'université, vous choisissez de faire la pharmacie?
Oui. En fait, j'ai totalement bifurqué. Et c'est vrai que beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi vous n'avez pas fait
le droit, les relations internationales,
voilà,
par exemple?
D'ailleurs, mon père s'attendait à ce que je fasse le droit. Déjà, lui-même, il était un défenseur coutumier. Il parle beaucoup comme moi. Alors, il aurait voulu que je fasse le droit. Mais bon, je ne me suis pas senti très bien dans la peau d'un juriste. Mon directeur de l'école secondaire aurait voulu que je fasse la médecine. Mais à ce moment-là, la médecine, le nombre d'années était très élevé. Comme j'étais dans une famille où nous n'avions pas beaucoup de moyens, j'ai eu peur. Alors, j'ai choisi quelque chose où le nombre d'années n'était pas trop élevé, 5 ans, mais proche de la médecine, mais aussi proche des plantes médicinales, parce que ma mère aimait travailler les plantes médicinales. Alors j'ai choisi donc la pharmacie, et la pharmacie, j'ai choisi la toxicologie.
Pourquoi justement la toxicologie?
Voilà, quand j'étais au Mayombe, il y a quelqu'un, un commerçant qui était décédé, j'étais gosse, et puis on a dit, une fois que on l'a amené à une machine, et il a dit de quoi il était empoisonné, il a cité le nom du poison, et on a pu arrêter ceux qui l'ont empoisonné. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors quand je suis arrivé à l'université...
Attendez professeur, je ne comprends pas. Il est parti, on l'a emmené, ou c'est devant une machine?
Oui.
Quel genre de machine?
C'est après que j'ai compris que c'était pas une machine, qu'on a fait des analyses toxicologiques. en réalité. Alors, quand je suis arrivé à l'université en première année, que bon, j'ai voulu m'inscrire en pharmacie.
C'était en quelle année déjà?
En 1970, en 1970, il y a longtemps.
Il y avait déjà des machines pour faire des analyses de ce genre?
Toxicologique en Europe. Chez nous, il n'y en avait pas.
Ah, d'accord, en Europe.
En Europe,
je pensais que c'était dans le Mayen.
Non, on avait amené en Europe, bien sûr. Mais c'est après qu'on a compris tout cela. Vous voyez l'imagerie enfantine, l'imagination enfantine. Donc nous, on s'est dit, on l'a amené à une machine, et il a dit qu'est-ce qu'on lui a donné, et il a dit qui lui a donné ça. Tu vois, les enfants, c'est ça qu'on s'est dit, quoi. Alors, moi, j'ai pensé avoir oublié cet épisode-là de ma vie, mais quand je suis arrivé à l'université, alors je suis arrivé à la faculté de pharmacie, je voulais faire la pharmacie, et puis je suis allé voir un peu le programme. Alors j'ai regardé d'abord, j'ai vu bromatologie, j'ai dit « Ah, c'est quoi ça ?» On m'a expliqué. Et puis j'ai vu toxicologie. J'ai dit, c'est quoi ça? On m'a dit, non, ici c'est pour faire des analyses. Quand quelqu'un meurt, par exemple, empoisonné, on peut savoir où... Alors je me suis souvenu, j'ai dit, ah là 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 là, c'est ça qu'on avait eu quand on était chez nous. Alors j'ai dit, je voudrais devenir ces magiciens, un de ces magiciens-là.
Parce que vous avez constaté qu'on empoisonnait beaucoup de gens ici?
Non, c'était
par
pas
rapport
ça.
Au monsieur
oui,
qui est allé en Europe.
Oui, par rapport à ces messieurs-là, dont on a amené les échantillons en Europe, je m'étais dit que c'est intéressant d'être un magicien qui puisse être capable de retrouver un poison dans n'importe quel milieu, que ce soit chez un homme, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans un végétal, chez l'animal, ainsi de suite. Je me suis dit que ce serait merveilleux de pouvoir faire ce travail-là. Mais je ne savais pas où est-ce que j'allais exercer.
Et justement, c'est la question que je voulais vous poser.
Beaucoup d'amis me l'ont dit, beaucoup de collègues qui étaient avec moi m'ont dit, enfin, Ndelo, tu vas faire la toxicologie. D'abord, comment tu vas faire pour devenir toxicologue? Il faut avoir une bourse, il faut aller en Europe. À ce moment-là, on n'avait que des professeurs blancs. Comment tu vas faire? Ça, c'est deuxièmement. Où est-ce que tu vas trouver les moyens de t'installer pour faire ce travail? Mais moi, je n'entendais que mon désir, mon besoin d'être toxicologue.
Et aujourd'hui, c'est fait.
Et aujourd'hui, c'est fait.
Vous êtes
et
satisfait.
Je travaille comme toxicologue. Franchement, je dois vous dire, Madame Kelly, que je suis vraiment satisfait. Je travaille comme toxicologue, j'ai fait des analyses toxicologiques, j'enseigne la toxicologie, je soigne les gens en toxicologie, je soigne les gens qui ont des suspicions d'empoisonnement ou qui sont empoisonnés, et généralement, donc j'ai fait tout. J'ai fait les analyses des gens qui sont déjà décédés et puis je trouve, dernièrement il y a eu quelque chose de merveilleux à la prison d'Ndolo où nous avons croisé le fer avec des Norvégiens qui ont des appareils sophistiqués et moi j'ai trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas trouvé et finalement ils sont venus reconnaître les professeurs, le médecin légiste de l'hôpital général de référence Mamayemo, le professeur Chomba. Eh bien en tout cas nous faisons un travail formidable avec lui. Et nous avons mis KO des Norvégiens qui ont tous les appareillages. Et nous, presque sans appareil, nous avons trouvé...
Vous avez réussi à découvrir le microbe.
Oui, un produit que la personne avait pris. Et finalement, ils l'ont reconnu devant le tribunal. Donc, je suis heureux de faire ce que j'ai fait, d'être toxicologue.
Alors, professeur, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Pendant mon enfance?
Vous avez beaucoup de souvenirs.
C'est sûr. Si, il y a un souvenir.
Lequel?
Il y a un souvenir qui m'a marqué. Je vais vous dire. J'étais à l'école, j'ai commencé mes études à l'école protestante. Mais comme on ne parlait pas très bien français, on disait « je suis ». Je vais c'est. Alors, je trouvais que c'était pas parce que notre église protestante était baptiste, donc il y avait des anglophones là-dedans, et ils ne parlaient pas bien français. Donc, j'ai bifurqué, j'ai voulu faire l'église catholique, l'école catholique. Mais mon père était diacre protestant et il voulait pas. Finalement, j'ai cessé d'étudier. J'ai commencé à faire l'école buissonnière chez les protestants et j'étais devenu très bête. Et mon père était obligé de m'amener chez les catholiques. Mais quand j'arrive là-bas, il y avait dans la classe, on était en 5e primaire, on avait divisé la classe en deux parties. Là où il y avait les jeunes gens intelligents et l'autre où il y avait les jeunes gens bêtes. Et j'étais parmi les bêtes et derrière le bête, c'était bête de bête. Zoba de zoba. Mais c'est parce que je ne voulais plus étudier. Alors j'avais maintenant des lacunes et c'était devenu difficile. Alors maintenant, à un moment donné, au mois de février, on devait faire un examen semestriel, je ne sais plus. Alors chaque fois j'allais balayer la classe, chaque jour. Et
pourquoi?
Puis ce jour-là, non, parce
c'était
que
une punition. Parce
non,
que...
non, 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 j'habitais tout près et puis j'aime servir.
Ah, de vous-même?
Oui, de moi-même. J'aime servir et j'ai commencé à servir depuis toujours. Et les amis, enfin, ceux qui me savent, connaissent, savent que j'aime servir. Alors, j'arrive ce jour-là, il y avait 4 examens à faire, mathématiques, religion, français et puis je ne sais plus une autre matière. Et puis j'arrive et je trouve sur la table l'examen. Et puis je lis. Et puis quand j'arrive, c'était l'examen.
Sur la table du professeur?
Mais oui, sur la table du professeur. Et puis le lendemain, j'ai trouvé l'autre examen, le lendemain, ainsi de suite. Alors, quand on a proclamé, je suis passé de presque de dernier vers le troisième. Et c'est la seule année où j'ai vu qu'on a proclamé le troisième avant le premier. Tellement j'ai fait un bond extraordinaire.
Ça a étonné même l'enseignant lui-même.
Mais tout le monde était étonné.
Alors que vous avez triché.
Oui, j'ai triché. Alors, moi, je dis, mais ce qui m'est arrivé ces jours-là, c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier, parce que c'est ça qui m'a boosté. Alors, maintenant, au troisième trimestre, il n'y avait pas moyen de tricher. Mais je me suis dit, maintenant, il faut... Et je me suis remis à travailler maintenant. Et comme j'étais très intelligent, simplement parce que j'avais eu des problèmes avec mon père, je ne voulais plus travailler, je me suis remis à travailler et j'ai travaillé tellement fort que j'ai été deuxième à la fin de l'année sans tricherie. Donc, je trouve ça que c'est merveilleux.
Et c'était quoi la réaction de votre père,
hein? Ah, mais il était content. Il était très content. Son enfant qui brille comme ça. Moi, je trouve que c'est un... coup d'œil, c'est un clin d'œil du destin qui m'a remis sur le droit chemin.
C'est quoi votre plat préféré, professeur Ndelo? Qu'est-ce que vous aimez manger?
Ah, comme tout mouyombe, les madesso et les ponou madesso avec du riz.
Sportif, hein?
Oh oui, j'étais un grand sportif dans le temps. Aujourd'hui, je fais seulement le pompage, mais ça marche bien. Mais bon, j'ai une allure sportive, bon, mais je dois encore quand même refaire le sport.
Vous faisiez quel sport?
Ah, j'étais footballeur à l'école secondaire. J'étais vraiment, je crois que j'étais un bon footballeur. Et puis, je suis arrivé en Europe. J'ai fait du football dans mes loisirs en 3e division. Et bon, j'allais jouer dans l'équipe de Berthem. J'ai vraiment engagé dans l'équipe de Berthem, mais en de notre temps, c'était seulement pour le plaisir, hein. Dans les années 80, c'était pas pour l'argent. Et je me rappelle comment donner le nom de Zwart, ça veut dire noir. Mm-hmm. Et quand j'avais la balle, l'entraîneur m'avait demandé une seule chose, de dribbler. Et quand j'avais la balle et j'ai dribblé, je savais dribbler, et tout le stade criait Zwart, c'est-à-dire noir. Mais pas pour se moquer de moi ou quoi que ce soit, mais c'était simplement, et c'était bien.
Voilà. C'était pas un peu raciste?
Non, c'était pas du tout raciste. Parce qu'on était du côté de à l'œuvre chez les Flamands. Hein. C'est des gens merveilleux, nous avons vécu de moments merveilleux chez les Flamands, contrairement à ce que les gens s'imaginent, non, pas du tout.
Alors, professeur, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une licence en sciences pharmaceutiques. Mais vous avez aussi un doctorat en sciences pharmaceutiques,
oui,
toujours.
Oui, tout à fait. J'ai un doctorat en sciences pharmaceutiques dans le domaine de la toxicologie. Donc dans les domaines donc de poisons. D'abord la pharmacie, je l'ai faite ici à l'université de Kinshasa. Puis je suis allé en Europe à Leuven. Leuven, c'est donc l'université de Leuven. C'est dans le temps c'était Louvain, mais bon comme ils se sont séparés, Leuven est resté flamand, Louvain est devenu français. Et moi j'étais chez les Flamands. Et nous avons donc appris un peu de flamand et nous avons fait donc les études là-bas. Et c'est là où au laboratoire du professeur Danes, qui est toujours vivant, et de docteur Van Boven, avec d'autres professeurs qui étaient avec nous. C'est là où j'ai fait donc mon pied, disons, mon doctorat en sciences pharmaceutiques.
Vous avez eu une grande distinction, oui.
Bien sûr, enfin, je crois que c'était bien. Bon, quand je suis arrivé là-bas, donc, au laboratoire, donc, j'ai commencé par faire un master. Puis, bon, je crois que j'ai commencé à comprendre quand même ce que c'est la toxicologie. Et puis j'ai commencé donc mon sujet de thèse, mais en même temps je faisais les analyses toxicologiques. À tel point qu'à un moment donné, on m'a responsabilisé pour diriger l'équipe de ceux qui venaient apprendre l'analyse toxicologique chez nous. L'équipe des gardes, c'est moi qui la dirigeais. Et donc quand j'ai terminé ma thèse de doctorat, bon, en même temps pendant que je faisais ma thèse de doctorat, j'étais le président de l'association des chercheurs congolais à Leuven. Nous étions plus de 50 familles. Donc j'étais quand même suffisamment connu et à Leuven et à Bruxelles, en Belgique. Et quand j'ai défendu, franchement, notre salle de promotion était pleine. Il y avait plein de gens. Mm-hmm. Et bon, je crois que le travail que j'ai fait a beaucoup plu au jury. Et j'ai eu donc grande distinction et c'était bien.
Alors, spécialisation en toxicologie, formation en santé publique et en analyse des médicaments 1985, toujours en Belgique?
Oui, toujours en Belgique. Donc, quand j'ai terminé la toxicologie, je me suis dit que dans nos pays ici, la toxicologie, ce n'est pas comme là-bas. Parce qu'en fait, en Europe, la toxicologie, c'est quoi? C'est que les gens se suicident. Alors, quand quelqu'un se suicide, on l'amène pour le sauver. Alors, on va prendre ces échantillons, on envoie au laboratoire et vous faites l'analyse pour retrouver rapidement de qu'est-ce qu'il a pris. Parce qu'ils peuvent ne pas vouloir dire. Et quelle quantité il a dans l'organisme pour que le médecin puisse l'aider à s'en sortir. Or, chez nous, ce n'est pas nécessairement ça. Les gens ne se suicident pas souvent, et surtout pas avec les médicaments. Les gens prennent des médicaments, les gens se droguent, les gens mangent des aliments qui sont contaminés sans le savoir, les gens, ils ont des intoxications qu'ils prennent pour des empoisonnements, c'est-à-dire un empoisonnement, c'est quand on te donne un poison par quelqu'un, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est dans le cadre de la santé publique, donc je dois faire la santé publique. Et c'est comme ça, donc, que j'ai entrepris les études de santé publique à l'Université libre de Bruxelles.
Professeur Ndelo, vous êtes marié, père des 4 enfants.
Oui, 2 garçons et 2 filles.
Et parmi vos enfants, il y en a qui veulent emboîter le pas de papa?
Mais oui, il y en a un, le deuxième. Le premier, lui, il a choisi la musique. Peut-être que vous pourriez le connaître. C'est celui qui a gagné le prix de Best of the Best l'année passée.
André Ndelo,
c'est mon fils.
Ah bon?
Aujourd'hui, d'ailleurs, il est en train de partir en Afrique du Sud parce que sa chanson Signorita, qui passe beaucoup sur MTV, a été nominée. Et donc, il est parti pour voir est-ce qu'il pourrait avoir un prix ou pas. Bon, ça, c'est que Dieu fasse ce qu'il veut. Donc, le premier musicien, José Ndix Ndelo.
Ok.
Le deuxième, Patrick Ndelo Matondo, celui-là, il est pharmacien toxicologue comme moi. Et donc, je suis en train de le former. Mm-hmm. Et c'est pas moi qui l'ai poussé. Hein.
De lui-même.
Non, moi je n'entre pas dans les choix.
Non, c'est
décidé
de lui-même.
Je le guide et il a décidé de lui-même d'être pharmacien, ça c'est un. Deuxièmement, de travailler avec moi. Troisième, c'est une fille, elle a fait langue et littérature anglaise. Elle est en Europe, elle est mariée là-bas, elle a fait la licence ici, elle est allée faire le DEA là-bas. Ah. Dernière, elle n'est pas loin d'ici, juste ici à côté à Hertel, c'est là où elle travaille.
On va souffler un peu, professeur Ndelo. Vous aimez la musique?
Ah, bien sûr. N'oubliez pas que j'ai même un fils qui est musicien.
Et
moi-même et mon épouse, nous aimons la musique beaucoup.
Quel genre de musique?
La musique religieuse d'abord, parce que mon épouse est vice-présidente d'une chorale. Moi-même, j'ai été vice-dirigeant d'une chorale en Europe. Puis nous aimons aussi n'importe quelle autre musique. La musique mondaine, comme on l'appelle, nous n'avons pas une option stricte.
Dans la musique mondaine, comme vous dites,
oui.
Quel est le musicien que vous aimez bien écouter?
C'est difficile. J'aime bien, bon, je sais pas moi, Madilou, Fally Poupa, Franco, j'aime Zaïko, Taboulé. En tout cas, moi, j'aime seulement la bonne musique.
Alors, on va vous faire plaisir, professeur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous propose comme musique?
Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais. Me proposer, puis je vais voir si c'est bien.
Dites-nous quelque chose qui vous ferait plaisir.
Ah, c'est difficile. Je n'ai pas une chanson spéciale en tête. Je sais pas moi, une chanson de qui? Au prénom de Taboulé?
Laquelle?
Ah, chérie Samba. Ah, comme on a eu Samba.
Ah oui, je vois la chanson. Alors on va demander à... Merci professeur. On va demander à la technique de nous proposer la chanson de Taboulé, Chéri Samba, pour votre plaisir et pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent en ce moment, partout en RDC et même dans les Mayombes chez vous.
Oui,
hein.
Oui.
Je suis sûr qu'ils sont très nombreux à ce radio et puis de ce côté-là.
Sûr.
Jean-Noël, merci de nous balancer la chanson.
Samba.
Chérie Samba, 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 akatinga motema, eh, chéri samba. La suya gamokali na linga gamoni, eh, komo na ye samba, eh, moni samba, ngai na linga kaye pona kolanda wo. Samba, na boka mwa motindo na yezoba, eh, chéri samba. Boka mwa nite soki na koloba loba mingi, eh, na yezoba, oh na samba, tika na yebisa bufa soni komo na pasie. Chéri samba, eh, moi si abani mobali, samba na seki kolingo, samba na lingio, eh, chéri samba.
Thank you. Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, le Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Josaphan Dello Dipanzou. Il est pharmacien et toxicologue, professeur d'université et recteur honoraire de l'université de Kinshasa. Professeur, on va parler de votre expérience professionnelle. On avait déjà commencé à aborder ça, hein,
oui,
en parlant
sûr.
De la toxicologie.
Oui.
Lorsque vous êtes revenu au pays, vous avez commencé directement à donner cours à l'université?
Oui. Quand je suis revenu, comme c'est l'université qui m'a envoyé la faculté de pharmacie, et c'est normal, on m'a donc repris à la faculté de sciences pharmaceutiques. Et là donc j'ai commencé à travailler comme d'abord comme professeur de santé publique. On m'a donné des cours de santé publique, des cours de toxicologie, des cours de phytopharmacie, et donc j'ai commencé à donner les cours. Mais je me suis dit qu'il fallait aussi créer. Alors j'ai créé un cours de toxicologie clinique qui n'existait pas chez nous, parce que je trouvais que les médecins n'avaient pas le cours de toxicologie, ce qui n'était pas normal. Alors j'ai créé le cours, et bon, je me suis promené avec ce cours pendant longtemps, parce que je ne trouvais pas un preneur, jusqu'au moment où j'ai contacté le professeur Kaba, professeur Kaba, qui était un de nos doyens, et doyen de la faculté de l'Université Congo à ce moment-là. Eh bien, c'est lui qui m'a dit mais venez à l'Université Congo, et je suis allé à Kisantu. C'est là où j'ai donné pour la première fois le cours de toxicologie clinique, c'est-à-dire le traitement des intoxications, des empoisonnements chez les médecins. Et à partir de là, le cours a eu un succès fou. Il est dans plusieurs universités. Je le donne même à l'extérieur du pays, par exemple au Cameroun. Et bon, voilà donc un peu ce que j'ai fait. Mais aussi, comme j'ai dit, les analyses toxicologiques et les soins des intoxiqués et des empoisonnés, ou des gens qui sont suspectés d'empoisonnement.
Vous avez un cabinet privé, professeur?
Non, pour le moment non, mais ça va venir.
Mais comment vous faites avec toutes ces personnes qui viennent faire soigner?
Pour le moment, je les reçois dans mon cabinet, enfin dans mon service de toxicologie de l'Université de Kinshasa, parce que tout simplement d'abord...
Et là, vous avez des machines pour détecter si c'est un poison, si c'est un médicament qu'on a pris de façon abusive?
Oui, c'est-à-dire que, voilà... J'ai appris la toxicologie, j'ai appris à faire l'analyse. Il y a des méthodes, c'est la même question que tout le monde me pose partout. Qu'est-ce que vous avez des appareillages sophistiqués? Non, j'ai pas des appareillages, des machines très sophistiquées comme en Europe. Mais j'ai ma tête. C'est-à-dire, il y a des méthodes simples, il y a des méthodes compliquées. Alors, il y a aussi, par exemple, chez les gens qui sont suspectés d'empoisonnement, j'utilise des analyses toxicologiques simples, mais aussi des analyses biologiques, et j'ai fait l'interprétation, et je sais de quoi ils retournent. Donc, pour le moment, je reçois les gens chez moi à l'université, parce que aussi, je suis en train de faire de la recherche. Allez, je vous dis, c'est le fameux poison de l'Est. Quand les gens vont à l'Est, ils sont empoisonnés, ils disent qu'ils sont empoisonnés. Alors, ils vont dans les hôpitaux ou chez les praticiens, mais ils tombent toujours malades, ça revient. Alors, je me suis dit qu'il faut chercher qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai commencé cette recherche depuis 1990, petit à petit, et aujourd'hui, je sais. Et donc, c'est parce que la recherche...
Et aujourd'hui, vous savez quoi?
Je sais que... Ces gens qui pensent être empoisonnés par quelqu'un d'autre ne sont pas empoisonnés par des gens.
C'est quoi alors?
C'est un microbe. C'est un microbe, une bactérie en fait. Une bactérie, mais cette bactérie produit un poison dans le corps. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à pouvoir appréhender. Et pourtant, c'est la vérité.
Est-ce que ça veut dire que ce poison-là n'existe pas?
Le poison, lui, il existe. Mais ce n'est pas un poison qu'on te donne par des gens. C'est un poison qui est produit. Le phénomène Karuo, je n'appelle pas ça poison. Le phénomène Karuo, c'est une bactérie, un microbe qui produit du poison.
C'est un microbe qu'on a tous dans l'organisme.
On l'a. Il y a des gens qui l'ont. Parfois ici, si je fais le test chez vous, nous attraperons des gens qui ont déjà le test dans le germe dans leur corps. Et qui un jour... peut commencer à produire du poison lorsque les conditions deviennent favorables.
Et c'est à quel moment que les conditions deviennent favorables?
C'est difficile à dire. C'est pour cela que je vous dis, je suis encore au campus, je n'ai pas encore ouvert un cabinet privé parce que je continue encore les certaines recherches. Mais je sais exactement aujourd'hui comment soigner ces gens-là. Et il y a beaucoup de gens qui viennent. Beaucoup de gens qui viennent.
Et c'est-à-dire... vous leur donnez un traitement qui réussit.
Mais comment ? Un traitement et non même pas un traitement bricolé ou un traitement à base de plantes ou de je ne sais quoi. Non. Un traitement avec des médicaments qui sont dans la pharmacie. J'ai prescrit, la personne va et l'achète elle-même. Et puis elle prend et le miracle s'accomplit. Eh bien, je voudrais vous dire, enfin, c'est parce que je ne sais pas si je peux oser le dire. Je suis un chrétien et je pense que, je crois que le destin ou Dieu a mis du sien dans cette histoire, parce que sinon je ne serais pas arrivé à pouvoir réussir à trouver exactement de quoi il retourne. Mais je vous assure, Madame Kelly, que tel que vous me voyez là devant vous, je sais. Et beaucoup de gens quittent même Goma ou même Lubumbashi ou n'importe quel coin et ils viennent se faire soigner chez moi. Il y a même, le phénomène se trouve même à l'extérieur du pays. J'ai des malades au Cameroun, notamment, par exemple. Et donc, c'est vraiment formidable.
Mais ça sera difficile quand même pour les auditeurs qui nous suivent de croire que le poison n'existe pas.
Le poison existe, mais on ne te le donne pas par quelqu'un.
Mais on est empoisonné comment ? De quelle manière ?
Lorsque le germe, lorsque vous avez la bactérie, c'est comme, allez, prenons par exemple le sida. Si vous n'avez pas le germe du sida, vous ne pouvez pas avoir le sida. Vous êtes d'accord avec moi ?
D'accord, mais il faut être contaminé pour avoir le germe.
Oui, mais écoutez-moi, le jour où vous êtes contaminé, vous avez le sida, vous avez le germe du sida. Vous restez avec lui, avec ce germe, et puis un jour, ça se déclenche, d'accord ?
Ouais.
Eh bien, c'est la même chose avec cette bactérie-là. Vous avez la bactérie. Généralement, certaines personnes la contractent quand ils sont gosses. Surtout dans nos pays où il y a beaucoup de, il n'y a pas beaucoup d'hygiène. Parfois, dans la jeunesse, nous l'avons. Et il reste dans l'organisme. Chez certaines personnes, il ne fait absolument rien. Et puis, un jour, chez d'autres, il se déclenche. Et d'ailleurs, les traditions praticiens le disent. Quand vous allez à l'Est, on va vous dire ça. C'est ce que je suis en train de dire là. Que voilà, ce poison-là, vous pouvez l'avoir, le poison carreau de l'Est, vous pouvez l'avoir dans le corps. Pendant longtemps, il ne vous fait rien. Et puis, un jour, il fait quelque chose. C'est vrai. Pourquoi ? Mais parce que c'est un germe microbien.
Mais il y a plusieurs sortes de poisons, professeur Ndelo. Là, vous avez donné l'exemple de poison de l'Est, le phénomène carreau. Mais il y a d'autres poisons où, quand on te met ça dans une boisson ou, je sais pas moi, dans la nourriture, ça tombe.
Ah oui, bien sûr, ça ce sont les poisons même les plus faciles.
Mais est-ce que vous soignez ça aussi ?
Mais bien sûr, ça c'est plus facile, puis ça c'est ce que j'ai appris.
Mais là, ça emporte facilement, non ? C'est 2-3 jours, vous êtes parti.
Mais ça dépend de la quantité qu'on vous a donnée. Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose, madame. Si vous prenez l'aspirine, si vous prenez un comprimé d'aspirine, ça ne vous fait rien. Mais essayez de prendre 20 comprimés d'aspirine. Allez, je prends par exemple la quinine. Vous prenez un comprimé de quinine, c'est rien du tout. Mais prenez 20 comprimés, vous allez voir. Au bout de quelques minutes, vous êtes parti. Donc, tout est question de dose. Et je connais tout ça. C'est ça mon métier.
Et ça veut dire que les gens doivent faire des tests pour savoir si ils ont le poison ou la bactérie dans
oui,
l'organisme.
Pour la bactérie, c'est important que les gens se fassent tester.
Tester.
Mais pas pour les autres poisons. Les autres poisons, c'est que vous allez savoir ou quand vous sortez avec quelqu'un. Ça m'arrive de recevoir des échantillons comme ça, des demandes d'analyse comme ça. Vous sortez avec quelqu'un et puis bon, vous ne vous sentez plus bien, par exemple. Bon, il peut se faire qu'on vous a mis, par exemple, du Valium dans votre boisson. Mais je vais trouver le Valium. Hein. Je vais trouver, vous savez, madame. Je trouve, j'ai
vous
fait
allez
l'analyse.
Trouver le Valium, mais il faut aussi traiter la personne.
Mais non, là, il suffit de l'envoyer à l'hôpital. Je vais dire, voilà, faites ceci, faites cela, et on fait, et c'est fini. Mais avec le poison carreau, c'est que le problème, quand vous allez pour le moment, du moins, quand vous allez dans les hôpitaux, eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont savoir ce qu'il faut faire. Je connais des gens qui vont jusqu'en Afrique du Sud, qui reviennent avec le poison est toujours dans son corps. Ils vont en Inde, ils reviennent. Je connais quelqu'un qui a été jusqu'à Rome. Il a été traité, mais le poison était dans son corps. Et quand ils reviennent chez moi, j'ai fait les tests. Je recherche, la présence de la bactérie. 2, je recherche la présence du poison dans le sang, parce que le poison circule dans le sang.
Les traitements, c'est à base des produits pharmaceutiques qu'on peut trouver dans...
À base des produits pharmaceutiques. Contrairement à ce que les gens pensent, que quand vous êtes empoisonné ou quand vous avez un poison dans le corps...
Il faut recourir à la médecine traditionnelle.
Ce n'est pas vrai. Madame, je vous dis, j'ai une longue liste de gens qui viennent chez moi. Et chaque jour, c'est d'ailleurs, bon, pendant que je parle, il y a beaucoup de malades qui me suivent, c'est sûr.
Et sûrement qu'après l'émission, vous aurez beaucoup d'appels aussi, hein, parce que vous allez donner vos coordonnées pour les personnes qui aimeraient bien entrer en contact
avec
vous.
Il n'y a pas de problème.
Professeur, ça sera à la fin de l'émission. Vous avez été aussi recteur de l'université de Kinshasa,
tout à fait.
De 2001 à 2005.
2005. Oui, oui, absolument. Et bien là aussi. Laissez-moi vous dire que j'étais recteur de manière tout à fait, comment je pourrais dire, assez sensationnelle. Pourquoi ? En 2001, en 2000, je venais de faire un travail, un grand travail pour notre armée. Un travail de toxicologie. Il y avait un problème dans l'armée. Et on a essayé de chercher dans les pays environnants si on pouvait nous aider. On n'a pas pu trouver quelqu'un et on leur a dit, mais c'est chez vous qu'il y a quelqu'un. Et alors, il y a des militaires zimbabwéens qui sont venus chez moi avec le secrétaire de direction d'un de nos chefs d'état-major. Ils sont venus et j'ai fait l'analyse. Au bout de quelques jours, j'ai trouvé le problème qui s'est posé et pendant 6 mois, j'ai travaillé pour l'armée. Je ne peux pas donner des détails parce que c'est des secrets. Alors, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé ? Un an plus tard, la personne qui était chef d'état-major de cette armée-là est devenue président de la République. Il était chef d'état-major de l'armée de terre. Et puis, l'année suivante, malheureusement, le président Kabila a été assassiné et il est devenu président de la République.
Alors, vous parlez du président Joseph Kabila.
Ben bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Au mois de juin, il est devenu président donc au début de l'année 2001. Alors, au mois de juin ou de juillet, celui qui était à ce moment-là ministre de l'enseignement supérieur a proposé mon nom comme recteur. Il est venu me trouver à la maison pour me le dire. Et alors, on a publié, j'étais nommé recteur intérimaire. Alors, mon grand frère qui était à ce moment-là recteur n'a pas voulu partir, il a voulu attendre que le président décide entre nous deux. Et que dès que le président a réalisé que moi, c'était le professeur Ndelo qui avait résolu le problème pour l'armée et qu'il connaissait bien de loin. Moi, j'ai pensé qu'il ne me connaissait pas, mais j'ai vu qu'il me connaissait vraiment suffisamment bien. Eh bien, il a signé pour moi et je suis devenu recteur de l'université de Kinshasa.
Mais vous avez aussi des problèmes pendant que vous étiez recteur à l'université de Kinshasa. Je sais qu'à un moment, vous avez été suspendu.
Ah oui, j'étais suspendu. J'étais suspendu en 2004 par un autre ministre. Parce que celui qui m'a nommé a quitté. Puis il y a eu le merveilleux ministre professeur Ngoy Emile comme ministre. Ah, ces messieurs-là est merveilleux. Nous avons fait, un grand travail, du bon travail ensemble, avec des gens comme l'honorable Kambinga Germain, qui était conseiller chez lui, et d'autres personnes. Et puis, il y a eu un autre, je ne donne pas son nom, qui est arrivé et qui voulait, certaines choses que moi je voulais pas. Alors, il m'a suspendu, mais un mois après la suspension, il était dehors. Et laissez-moi vous dire qu'on m'a demandé pas mal, on m'a proposé pas mal de choses, même jusqu'à vouloir les remplacer. Parce que ce moment-là, n'oubliez pas qu'il y avait, c'était le régime 1+4. Voilà. Et que le ministère de l'enseignement ça appartenait au RCD. Oui. Si j'avais voulu entrer chez le RCD, peut-être que je serais devenu ministre à sa place. Moi, ça ne m'intéressait pas. Et on m'a demandé de reprendre mon poste, j'ai refusé.
Vous avez refusé
J'ai refusé. Je peux vous dire.
On ne voulait plus de vous.
Non, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Sinon, je pourrais vous donner de noms, mais ce n'est pas bien. J'ai refusé. J'ai dit, Ndelo ne vaut rien, mais le recteur Ndelo. Vous voyez, le recteur, ça c'est un, comment je peux dire, c'est une fonction respectable. Et il ne m'appartenait pas, moi, de pouvoir diluer cette fonction et d'accepter n'importe quoi. Et j'ai dit, je n'accepte plus. Et je suis resté, depuis le jour où on m'avait suspendu, le 8 septembre 2004, jusqu'au moment où on a nommé le nouveau recteur au mois de mars 2005, je ne suis plus jamais entré dans mon bureau. Mais vous savez très bien qu'une suspension administrative, au bout de trois mois, si on n'a rien fait, vous automatiquement vous reprenez.
Mais vous avez préféré ne pas reprendre.
J'ai préféré de ne pas le faire parce que je considérais qu'on ne respectait pas suffisamment la fonction de recteur. Et je n'acceptais pas ça.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui professeur Josaphat Ndelo Banzou. Il est pharmacien toxicologue, professeur d'université et recteur honoraire de l'université de Kinshasa. Professeur, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais avant de nous séparer, professeur, je vais signaler aussi que vous avez occupé, vous avez une petite expérience politique aussi, parce que vous avez été conseiller du ministre chargé des relations avec le Parlement,
oui.
Conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Tout à fait.
Là, c'était entre 91 et 94.
Oui, tout à fait. Bon, oui, on m'a sollicité parce que ce moment-là, en fait, voilà. Nous étions dans l'UFERI, pour dire vrai. Nous étions dans l'UFERI et nous formions le cabinet privé, si vous voulez, le bureau d'études de l'UFERI du président Gounza Karli Bond. Et je me rappelle que chaque jeudi, nous nous isolions chez le Ngounz. Et Madame Gounz faisait la cuisine pour nous et nous discutions ainsi de suite. Et quand Gounz est passé au pouvoir, c'est à ce moment-là que nous sommes passés aussi comme conseiller par ici par là. Voilà.
Mais vous ne vous êtes pas lancé dans la politique active?
Non. Après, je suis entré dans l'action d'élé, action qui était créée par c'est une organisation politique, enfin pas politique, mais qui avait été créée par Monsieur Albert Ndélé. Et puis après, je me suis désengagé tout doucement. Même après le rectorat, on a voulu que je puisse m'intéresser à la politique, mais je n'ai pas voulu, à cause surtout du problème de Carreau. J'ai voulu me libérer du rectorat pour pouvoir me préoccuper de recherches pour ces poissons de l'Est.
Voilà, professeur, on me signale déjà qu'il faut conclure. Alors, pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec vous, est-ce que ça vous dérangerait de donner votre numéro de téléphone ou bien votre adresse email?
Absolument pas.
Alors,
c'est le 081 026 57 00.
Donc, je vais répéter 081 026 57 00 pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec le professeur Josaphat Ndelo Dipanzou. Adresse email
Jos, J-O-S, barre de 8,
oui.
Ndelo, @yahoo.fr.
Jos, barre de 8, Ndelo,
oui.
@yahoo.fr. Voilà, c'est la fin de cet entretien. C'était un plaisir d'échanger avec vous, professeur Josaphat Ndelo. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde du micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bon tri de programme sur la fréquence de la paix.